Cette semaine à la vie en BD, Philippe Lemieux et l'histoire du cinéma en BD, Éléonore Goldberg et la fiancée. Mardi à toutes et tous, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous. Évidemment, toujours un plaisir de vous retrouver pour parler 9e art, pour parler bande dessinée. Et cette semaine, on aura l'occasion d'explorer peut-être un peu deux adaptations, j'ai envie de dire. Là. Si je pousse un peu pour essayer de trouver une thématique, un lien entre les deux entrevues de cette semaine. Une adaptation, puisque en deuxième partie, on ira voir du côté d'Éléonore Goldberg qui... chez Mécanique Générale, nous revient avec une deuxième BD, donc après une adaptation théâtrale de La Demoiselle en blanc. C'est une donc adaptation théâtrale du Dibouz, donc qui est une pièce de théâtre juif très populaire, en fait, le Roméo et Juliette ce pan culturel-là. Alors, on verra avec elle le travail justement d'adaptation, parce qu'il y en a eu un important autour de cette œuvre théâtrale. Et en première moitié d'émission, on ira vers la pédagogie, donc l'adaptation d'un cours d'histoire du cinéma au collégial qui devient une bande dessinée jeunesse chez Michel Quintin, donc l'histoire du cinéma en BD. Alors, c'est les deux sujets qu'on va explorer cette semaine ici à l'émission. La vie en BD, on porte maintenant un regard sur l'histoire du cinéma en bande dessinée, une série qui en est déjà à 3 tomes, qui est disponible du côté des éditions Michel Quintin. C'est dessiné par Gary, c'est scénarisé par Philippe Lemieux et le scénariste est avec nous. Bonjour Philippe.
Hey, bonjour, ça va bien?
Ça va très bien. Et Philippe, en fait, j'ai l'impression que c'est une BD qui s'inscrit quand même assez bien dans un parcours de plusieurs années, de plusieurs, quelques décennies même, consacré au cinéma, entre enseignement collégial, chronique spécialisée à l'écrit, à la radio, réalisation de courts-métrages. La BD est devenue un peu une extension qui s'est imposée à un moment donné?
Oui, ben en fait... Je suis un passionné de cinéma, je pense que c'est assez évident, là. J'enseigne au Cégep le cinéma maintenant depuis 27 ans. Et en fait, c'est en enseignant mes cours que je me rendais compte que je racontais beaucoup d'histoires pour mettre en situation les élèves dans le contexte historique, les anecdotes par rapport à certains des créateurs du cinéma qui étaient quand même amusantes. Tu sais, par exemple, le fait que Chaplin s'était inscrit à un concours d'imitateur de Chaplin puis qu'il s'était pas retrouvé parmi les finalistes. Et je me suis dit, mais mon Dieu, ce serait intéressant de raconter cette histoire-là sous la forme de bande dessinée. Et j'ai été faire des recherches en me disant quelqu'un l'a fait, c'est certain. Puis en fait, ça n'avait jamais été fait. Il y avait quelques biographies de personnages importants qui ont été faits en BD. J'en ai lu une sur Sergio Leone récemment, qui est très bonne. Chaplin y a passé aussi. Mais personne n'avait tenté de raconter l'histoire du cinéma à la manière que j'envisageais. Alors je me suis dit, bon, ben je me lance. Et en même temps, ça s'inscrit un petit peu dans ma mission pédagogique. Que ce soit par la radio ou par des publications, par l'enseignement, je suis toujours en train de partager ma passion pour le cinéma. Et là, je m'adresse à un public un petit peu plus jeune, mais c'est la même idée finalement. Puis de raconter l'histoire d'un média visuel en utilisant un autre média visuel, surtout que si on pense au lien entre le cinéma et la BD, il y en a beaucoup, ne serait-ce que pour les découpages techniques, les storyboards, comme on dit en français, c'est pratiquement déjà des bandes dessinées avant d'être des films. Alors, ça me semblait tout à fait naturel.
Oui, puis en fait, il y a quand même une puissance qu'on observe au fil des années sur la capacité de vulgarisation qu'a la bande dessinée. Et j'ai toujours l'impression que c'est parce que ça force aussi au synthétisme, dans la mesure où il faut aller à l'essentiel, il faut choisir ce qu'on illustre, ce qu'on dit, comment on l'organise. Donc j'imagine que, encore là, le fait de dire, bon, OK, on passe à ce médium-là et on doit le structurer comme une BD, ça donne aussi une forme assez claire à l'exercice que vous allez faire, j'imagine, où on part de notre de cours au collégial, puis on se dit, OK, maintenant on l'explique en BD avec en ayant en tête un enfant de 12 ans et tout ce qui entoure, parce qu'évidemment, après ça, on peut apprendre, même si on a 50 ans. Je veux dire, moi, j'ai appris en lisant ce BD-là, mais ça force à une certaine structure, j'ai l'impression.
En fait, c'est le plus gros défi que j'ai parce que la connaissance de l'histoire du cinéma, je l'ai acquise maintenant. C'est pas un problème. Puis c'est un défi que je partage avec mes chroniques radio. En classe, je suis dictateur. J'ai 2 heures et demie à moi. Je peux parler autant que je veux. Je peux partir dans des parenthèses, en plus finir. Et c'est moi seul qui décide. Mais quand je dois faire 4 minutes et 30 secondes pile à la radio sur un sujet dont j'ai l'habitude de parler pendant des heures. C'est un gros défi pour moi. Et avec la BD, ben, c'est ça, c'est 44 pages de dessin. Dans notre volume, dans notre série, on divise ça en 4 chapitres. Donc, chaque volume, c'est 4 créateurs sur lesquels je dois m'arrêter. Donc, pour chaque créateur, pour chaque anecdote, je dois en délaisser une dizaine. Tu sais, j'ai pas la prétention de raconter toute l'histoire du cinéma. C'est impossible dans ce format-là. C'est vraiment un survol, les grands créateurs, les grands moments. Puis ensuite, on espère susciter cette flamme chez les jeunes, un intérêt. Puis, ah, j'ai envie d'en savoir plus. Puis de continuer. Tu sais, le plus beau compliment qu'on m'a fait par le passé, les parents dans les salons du livre me disent, je l'ai lu avec mon enfant. Et là, il a voulu voir. Par exemple, un voyage dans la Lune de Méliès. On est allé sur YouTube, on a regardé le film. Bah, ça, c'est parfait, j'ai accompli ma mission, c'est mon but, c'est d'éveiller cet intérêt-là. Mais oui, c'est un gros défi, puis on me fait souvent des commentaires du genre, oh, mais t'as pas parlé de telle personne, mais t'as pas parlé de telle personne. Mais je peux pas, j'ai un, tu sais, des pages limites, fait que je dois faire des choix, parfois crève-cœur, mais ça fait partie du média finalement.
Oui, puis des choix qui doivent apporter dans la mesure où on parle de quelque chose, mais dans la perception que j'en ai, le quelque chose doit amener vers autre chose. Si on prend le troisième sur l'apogée des monstres ou les sections sur Caligari, l'expressionnisme allemand, mais on parle de l'éclairage. L'éclairage amène à la thématique. On choisit la thématique parce qu'on peut parler d'éléments techniques aussi, parce qu'on doit comprendre comment et pourquoi le cinéma évolue. Et souvent, c'est une évolution qui est technologique, qui ouvre des nouveaux éléments, des nouvelles portes, qui ouvre des nouvelles créations. Donc, j'imagine que c'est toujours un jeu d'équilibriste en disant, OK, on parle par exemple de Chaplin pour parler de tel élément, on parle des films de Universal pour parler de tel autre, etc., etc.
Oui, exact. Ben, le cinéma, c'est pas un vacuum, hein. Chaque réalisateur et film influence les autres réalisateurs, les autres films. Et j'espère, quand on lit les BD, que d'un créateur à l'autre, on voit la filiation. Fait que je m'efforce de trouver une façon de passer d'un chapitre à l'autre de façon naturelle. C'est par exemple, dans le volume 2, ben, on parle de Chaplin nécessairement, mais Chaplin a été découvert par Mack Sennett. Alors, je commence avec Mack Sennett pour amener à Chaplin, puis Chaplin, en fin de carrière, a travaillé avec Buster Keaton. Alors, ça m'amène à parler de Buster Keaton. J'essaie que ça soit, tu sais, un continuum logique, là, pour l'enfant qui découvre tout ça. Puis bon, l'expressionnisme allemand, oui. Puis ensuite, on a les monstres du studio Universal qui sont les descendants directs de cette période-là. Puis bon, j'ai dû m'arrêter parce que là, après ça, il y a le studio Hammer, puis après ça, il y a toute l'histoire de l'horreur, éventuellement. Fait que oui, ça fait partie du mandat, là, que ça soit logique et cohérent tout ça, là.
Oui, puis en fait, puis ça permet de faire des ponts où des fois on n'y a pas même pensé comme adulte et encore moins comme enfant. Mais je parlais de l'éclairage, par exemple, où l'expressionnisme allemand a amené, dans le fond, de ce que vous dites dans le troisième, ben, des nouvelles possibilités de mise en scène au final qui ont beaucoup influencé les possibilités sur l'horreur parce que là, subitement, on avait d'autres possibilités, d'autres réflexions sur le plan de la direction artistique qui ont ouvert des portes qui, après ça, ont déboulé vers d'autres portes aussi qu'on découvrira dans les tomes à venir.
Oui, exact. Puis là, tu sais, il y aura un tome sur, par exemple, le cinéma d'animation. Alors là encore, l'évolution technologique dont tu parles, tu sais, on va parler de Gertie en tout premier, ensuite Disney, mais son héritier direct, c'est John Lasseter et Pixar, évidemment. Alors, il y a toute cette évolution-là qui est intéressante. Fait que le cinéma, son évolution, tu l'as dit, elle est technologique. Tu sais, c'est dès le départ, c'était le défi de faire mouvoir la photographie. Alors, en partant, c'est une technologie, c'est un des plus célèbres inventeurs de tous les temps qui a tourné le premier film, qui est Thomas Edison. Alors, par défaut chaque nouvelle technologie qui est normalement pas inventée pour le cinéma. Le cinéma va se l'accaparer, va l'utiliser, va se dire ben ça peut me servir. Tu sais, l'image numérique est un bel exemple de ça, mais toute l'ère, même le son et la télé aussi, la vidéo éventuellement, ont tous été utilisés par le cinéma. Fait que ça, c'est une partie de l'histoire qu'il faut raconter, je pense, qui est importante.
Et donc, on part, en fait, on est rendu à 3 volumes, mais l'ensemble qui est prévu, c'est à peu près 10. J'imagine que d'entrée de jeu, il faut avoir une découpe assez claire parce que, on le dit depuis tantôt, dans le fond, le défi est dans l'organisation d'abord, dans la structuration de comment on divise, comment on subdivise. Et ensuite, une fois que ce plan de match-là est fait, c'est là qu'on tombe un peu dans la rédaction, puis où on peut s'attarder à un album et à l'autre ensuite.
Oui, en fait, dès notre première rencontre chez Michel Quintin, où on a pitché le projet, finalement, Gary et moi, j'avais un plan de 10 volumes d'établi, parce que, comme tu dis, je veux savoir où je m'en vais dans l'écriture. Fait que j'ai les grandes thématiques de chaque volume déjà en tête, puis j'écris les scénarios maintenant au fur et à la mesure, là. Le quatrième volume est pratiquement terminé, il est dessiné, il sera lancé à l'automne prochain. Et là, je suis à l'écriture du 6, en fait. Donc, vraiment, on sait où on s'en va, là, puis ce plan-là est fait. On va se rendre à 10.
Et j'imagine que d'album en album, pour Philippe Lemieux, scénariste de bande dessinée, ben, l'expérience rentre aussi. J'imagine que le scénario du premier, dans le fond, pour vous, ça devient aussi nécessaire de s'approprier les codes du scénario BD, les codes de la bande dessinée qui sont pas exactement les mêmes que ceux du cinéma non plus. On peut aller chercher de l'expérience, mais il faut quand même se développer aussi un métier au bout du compte.
Oui, absolument. C'est pour ça que j'aime tant l'expérience. C'est que c'est nouveau pour moi. Ça me permet de me renouveler ailleurs. Parce qu'après 27 ans d'enseigner les mêmes cours, c'est pas le même défi que c'était au départ. Admettons, là, le plaisir, c'est de partager avec les élèves qui, eux, sont toujours nouveaux. Mais comme la radio et la BD, oui, c'est de se lancer des nouveaux défis. Puis, comme beaucoup de gens qui sont en BD, je lis les BD depuis que je suis tout petit. Ça a toujours été un rêve pour moi d'en faire. Et comme je suis incapable de dessiner même un bonhomme pendu qui a de l'allure, j'avais jamais pensé qu'il serait possible pour moi d'en faire. Et là, le flash à un moment donné de « oui, mais je peux peut-être les écrire, quelqu'un d'autre pourrait les dessiner », m'est venu à l'esprit. Puis là, il suffisait d'avoir une bonne idée. Puis c'est devenu l'histoire du cinéma en BD un peu naturellement pour moi. Mais oui, c'est vraiment drôle parce que Gary aussi, à l'inverse de moi, chérissait ce rêve d'être publié en tant qu'artiste, en tant qu'illustrateur, et on est à des pôles opposés, c'est-à-dire qu'il y a un talent inné, autodidacte pour le dessin, mais ne savait pas quoi raconter avec ce talent-là. Moi, de mon côté, je savais ce que je voulais raconter, mais c'était impossible pour moi de le dessiner. Alors, la rencontre a été fortuite et on a réussi. En fait, on permet à chacun d'accomplir mutuellement son rêve de jeunesse d'être BDiste professionnel, finalement.
Et puis, en fait, de ce que j'en avais compris, vous étiez découvert essentiellement un peu par hasard sur Facebook, une bouée que tu avais lancée, une bouteille que tu avais lancée à la mer, à laquelle il a répondu, puis ça a été le début d'une collaboration. Et dans un contexte où j'imagine aussi, si on se dit, ben OK, je veux faire 10 albums, ben il faut que ça clique assez rapidement aussi, parce qu'on s'embarque pour 10 heures, là, dans le fond.
Exact, c'est ça. Bon, une fois que j'avais écrit le premier scénario, j'ai publié sur la page, une page de BDiste Québec sur Facebook, là. J'avais eu d'ailleurs une première rencontre avec un autre BDiste avant, Gary. Et j'avais pas ce feeling-là. C'est, j'avais pas les atomes crochus n'étaient pas tout à fait là, même si le talent était présent. Puis Gary, finalement, j'ai dû le relancer quand même. Pour qu'on ait une rencontre, parce que lui, il hésitait aussi, il ne me connaissait pas. Bon. Fait qu'on s'est rencontrés, un Tim Hortons à mi-chemin entre chez nous et chez lui, c'est devenu notre QG de rencontre, là. Le Tim Hortons en question, on l'ignore complètement, mais on se voit là régulièrement pour travailler sur les BD. Et on a le même âge, on a les mêmes références cinématographiques, tu sais, on a vu à l'adolescence les mêmes films qui nous ont marqués. Alors, c'était facile de se comprendre. Et c'est devenu un jeu de séduction mutuelle. Moi, je voulais le convaincre que le projet était vraiment trippant. Lui, il voulait me convaincre qu'il était prêt à embarquer là-dedans et qu'il était capable de dessiner ce que je voulais. Puis finalement, au bout de la première rencontre, c'était très clair que j'avais trouvé mon collaborateur, là. Et depuis ce temps-là, ça se passe très, très bien.
Dans une approche de travail ou côté scénario, est-ce que tu vas quand même loin dans ce que tu veux exprimer? Parce que dans le fond, il y a beaucoup d'éléments de vulgarisation qui sont évidemment dans le texte, mais il y en a d'autres qui sont dans la façon dont c'est présenté, dans la façon dont c'est mis en scène. Dans certains cas, on va aussi vers de la reproduction d'images, de scènes, de films. Donc, j'imagine que d'un côté, il y a une part où tu fournis de la documentation pour partir d'égal, où tu expliques un peu ce que tu veux faire, ou est-ce qu'il y a beaucoup de jeux à quatre mains aussi pour dire, ben OK, on va expliquer ça, comment on le présenterait, comment on trouverait une façon de l'amener vers la BD?
Oui, ben mon scénario est quand même assez détaillé. Martin Guéret m'a souvent dit, en fait, il voyait les images, il voyait les pages en lisant le scénario, ce qui est un compliment, en fait, pour moi, là, je pense que c'est ça l'idéal. Normalement, chacun des scénarios est accompagné d'un index d'une trentaine de pages où est-ce que je lui fournis des images d'époque. Surtout qu'il y a un défi important, Gary, par rapport à, par exemple, un dessinateur qui travaille sur une série avec les mêmes personnages récurrents, c'est que chaque volume, il recommence à zéro, là. C'est une autre époque, c'est un autre pays. Les technologies, les caméras, les studios ont évolué. C'est pas les mêmes personnages jamais, à part les deux animateurs principaux, là, mais je veux dire, on revient pas non plus sur les mêmes créateurs. Même la mode, les voitures, les immeubles, tout change. Alors, c'est une grosse recherche que Gary doit faire. C'est pas comme dessiner Tintin, par exemple, de volume en volume, où c'est tout le temps les mêmes personnages. Moi, je lui fournis des images d'époque, surtout au niveau des caméras, des éclairages, puis les photos des personnes dont je parle, des réalisateurs. Puis ensuite, lui, de son côté, évidemment, va profiter de tous les outils numériques à sa disposition pour peaufiner les recherches. Et s'il y a des questions, ben on s'écrit régulièrement, là. C'est moi l'expert en la matière, puis j'ai souvent beaucoup de matériel parce que je m'en sers dans mes cours nécessairement. Puis c'est comme ça qu'on avance.
Oui, puis en fait, c'est ça. Ça devient un avantage parce que justement, vous n'avez pas besoin d'aller chercher une expertise externe pour valider, ah oui, tel outil, ah oui, tel élément, comme tu es déjà en maîtrise du sujet. Puis même quand on y va largement sur les lieux, sur les époques, ben, tu sais, je veux dire, nécessairement, j'imagine qu'enseigner le cinéma, oui, on le disait, c'est enseigner la technologie, mais c'est aussi enseigner un peu la société, un peu l'anthropologie. Je veux dire, l'art est le reflet d'un instant, d'une époque. Donc, nécessairement, il y a de ça aussi dans tes cours. Hein.
Ah, absolument. Dans mes cours comme dans la BD, je veux dire, si t'as pas le contexte dans lequel un film est sorti, tu peux pas comprendre son importance. Il m'arrive des fois de passer 45 minutes juste à expliquer la Deuxième Guerre mondiale avant de pouvoir présenter un film de propagande, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Puis dans la BD, c'est la même chose, mais de façon plus synthétique, là. Mais quel était le contexte, dans le fond? Pourquoi les Allemands, par exemple, ont quitté l'Allemagne dans le volume 3? On doit le dire, là, c'est important. Oui, il y a ça. Puis on a une troisième collaboratrice. Son nom, on n'est pas sur les pages couvertures des bandes dessinées, mais à mon avis, devrait l'être. C'est notre éditrice, Michel Quintin, qui se prénomme Joël. Alors, elle, c'est absolument capital ce qu'elle fait parce que elle reçoit les pages et sa première lecture est importante pour nous, à savoir si est-ce qu'un enfant qui connaît pas le cinéma, va bien comprendre. Alors, si elle ne comprend pas quelque chose dans notre dessin, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, ça veut dire que ça ne sera pas clair pour les lecteurs. Si elle a une bonne culture, elle est cinéphile, mais elle n'est pas prof de cinéma, donc faut qu'elle, à sa lecture, ça soit évident pour elle. Si ce n'est pas évident, on a manqué à notre mission, puis là, faut revoir soit les textes ou les dessins ou les deux, là. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'attarde.
Et justement, parce que dans le fond, Philippe Lemieux, vous enseignez au collégial, la BD, le public, on le disait, c'est d'abord un public jeunesse, évidemment, c'est accessible pour tous. Je pense que c'est important de le spécifier aussi. Je veux dire, peu importe notre âge, si on s'y connaît pas tant que ça en cinéma, on va apprendre quelque chose. Mais on part avec l'idée d'un enfant, donc d'une douzaine d'années à peu près. On est beaucoup dans l'adaptation du langage ou c'est vraiment plus dans la quantité d'informations qu'on va aller chercher, mais en se disant qu'on va quand même amener un langage, parce que le cinéma a un langage, donc il ne faut pas non plus en inventer un autre. La marge de manœuvre est peut-être plus sur la manière de l'expliquer que sur le langage qu'on va utiliser.
Ben, il y a deux aspects à ce que tu as dit. La première chose, c'est que j'ai la chance que le langage dans une bande dessinée est accompagné par le dessin. S'il y a des choses que, tu sais, j'essaie de ne pas utiliser trop de frioritures linguistiques, là. C'est pas Molière, là, mon affaire. Fait que j'essaie d'utiliser un langage usuel, mais tout en utilisant les termes réels qu'on utilise en cinéma. Et ensuite, le dessin fait sa part de chemin aussi. T'sais, alors, quand on parle du kinétoscope, c'est sûr que si je dis seulement le kinétoscope, on ne peut pas comprendre si on ne sait pas c'est quoi un kinétoscope. Mais si j'écris le kinétoscope et on dessine le kinétoscope, alors à ce moment-là, je pense que les enfants peuvent faire le lien puis peuvent comprendre. À titre de prof, j'ai remarqué qu'on a souvent tendance à sous-estimer la capacité des enfants à comprendre des choses complexes des fois. Alors, je ne me gêne pas pour l'écrire pour un public vaste. Puis ça, c'est l'autre point que tu as apporté, c'est que oui. Au départ, c'est une bande dessinée. On vise les jeunes, on veut susciter chez eux un intérêt pour le cinéma. Mais par le biais de mes élèves au cégep, qui ont tous l'obligation de l'acheter, évidemment, là, comme tout bon prof de cégep, je fais acheter mes livres. Hein, c'est bon. Et aussi dans les salons, il y a des adultes, des gens de mon âge, dans la cinquantaine, la quarantaine, qui l'ont acheté pour eux-mêmes et qui l'ont lu. Ou les parents qui les lisent avec leurs enfants puis qui me disent, mais j'ai appris quelque chose, j'ai aimé ça, c'est quand est-ce le prochain? Alors, je pense, j'essaie toujours de ratisser assez large pour que ça puisse intéresser un peu tout le monde qui s'intéresse au cinéma finalement. Le seul défi, dans le fond, c'est une question de censure. Il y a des choses dans l'histoire du cinéma, malheureusement, qu'il faut pas raconter à des jeunes. Donc, je m'auto-censure à ce niveau-là. Des choses que je peux dire en classe, par exemple, à des élèves de 18-19 ans au cégep que je ne dirais pas à un enfant de 10-12 ans, là. Fait qu'il y a ce contexte-là. Mais c'est très rare. C'est juste de certains moments. Puis, faut pas oublier que moi, la bande dessinée, c'est l'histoire du cinéma en bande dessinée. C'est important. C'est pas l'histoire de la vie personnelle de ces personnes-là. Fait que Charlie Chaplin, on le sait, c'était pas Jojo, sa relation avec les femmes, là. Il y a eu beaucoup de controverses dans sa vie, puis je pense que s'il avait été vivant aujourd'hui, il aurait eu beaucoup plus de difficultés qu'il en a eu à l'époque, admettons, là. Mais c'est pas ça l'histoire que je veux raconter. C'est pas l'histoire de Chaplin, c'est l'histoire du cinéma. Donc, on parle des films, on parle de leur contribution dans l'histoire du cinéma, on parle de l'évolution de cet art-là. Les personnes, ça, je mets ça de côté. Quelqu'un s'y intéresse, il pourra lire la biographie ou d'autres œuvres.
Oui, puis c'est ce qui distingue aussi de toute façon le travail que vous faites, toi et Gary, sur cette série-là, comparativement justement à une biographie de tel cinéaste ou à une étude plus en profondeur de tel courant, de telle mouvance, etc. Ça reste une porte d'entrée où après ça, ben OK, on s'intéresse à Chaplin, on va écouter les films, on va comprendre le pont, après ça, oups, on va lire la biographie, on va voir les zones de gris. Ça va balancer, mais dans le fond, pour moi, l'histoire du cinéma en BD, c'est d'abord et avant tout une porte d'entrée vers tout le cinéma au final, mais avec la
Oui.
possibilité, puis l'offre aussi pour les jeunes de le commencer du début plutôt que de le commencer par la fin. Parce que là, techniquement, ils vont voir ce qui sort en 2023, en 2020, en 2015, mais de prendre conscience de comment c'était il y a 100 ans, à mon sens, c'est intéressant aussi. Puis même, ça met en perspective un peu par rapport à l'histoire, par rapport à plein d'évolutions, dans le fond.
Oui, bien, l'idée, c'est de pouvoir tisser les liens. C'est ce que je fais en classe, hein, quand je leur explique un mouvement des années 20 ou 30. J'essaie toujours. Après leur avoir présenté des extraits de ces films-là, de cette époque-là, je leur présente un extrait de Mandalorian ou de quelque chose qu'ils connaissent en leur disant, regardez, cette scène-là de Mandalorian, elle est directement inspirée du cinéma d'Akira Kurosawa, par exemple, pour qu'ils voient que ce qu'eux aiment, ce qu'eux voient, est inspiré de ce qui est venu avant. Et là, on a un timing extraordinaire. Le volume 3 parle de l'expressionnisme allemand et on a consacré un chapitre entier à Nosferatu. Le célèbre vampire. Et là, cette année, en 2024, sortira une toute nouvelle version de Nosferatu au cinéma. On va beaucoup, sans doute, en parler dans les médias. Alors ça, c'est parfait parce que, bon, d'où ça vient? Bien, ça vient du film de 1922, réalisé par Murnau. Et sans doute que dans le nouveau film, on va rendre hommage à ce film-là par l'éclairage, l'utilisation d'ombrage et, bon, le maquillage même peut-être du monstre. Alors tout ça met en perspective. Je sais que Apple TV travaille sur un remake de Metropolis de Fritz Lang actuellement. Alors là, ce qui sortira, encore là, le lien va être évident. Mais quand je leur parle de Metropolis dans la BD, tu sais, je mentionne Blade Runner, je mentionne C-3PO dans Star Wars, je mentionne La Matrice, tous des films qui ont été fortement influencés par Metropolis. Alors ça leur permet de comprendre ce contexte-là.
Oui, puis en fait, comme parents, si on lit la BD avec l'enfant, ben nous aussi, ça nous fait des références, ça fait des éléments sur lesquels on peut jaser. Et ça offre, j'ai l'impression que ça ouvre la porte à une exploration commune du cinéma pour qui connaît pas nécessairement l'histoire, puis peut pas la faire de lui-même, entre guillemets. Mais ben on part de la BD, puis après ça, on peut, comme tu disais, on peut aller sur YouTube, on peut aller au club vidéo, on peut aller à la bibliothèque, puis t'sais, tout est là, on est chanceux. On est à une époque où tout est facile à trouver, c'est pas comme il y a 30 ans où il fallait
Non,
creuser
mon
pour
Dieu,
trouver
non.
nos affaires, là.
Oui, absolument. Puis Je veux dire, ça peut devenir, tu sais, chez moi, en tout cas, le vendredi soir, c'est la soirée cinéma, là. Je pense que beaucoup de parents ont ça avec leurs enfants. Fait que des fois, d'aller au-delà de Mario Bros, le film, puis de choisir quelque chose pour faire découvrir à l'enfant du nouveau, ça peut être un point de départ. C'est vraiment ça qui est, tu sais, moi, c'est la pointe de l'iceberg que je présente. C'est un survol de l'histoire du cinéma. Puis après ça, ben, selon les intérêts de l'enfant, tu sais, là, on a parlé du burlesque, de la comédie muette, on a parlé de l'horreur. Le volume 4 qui sortira à l'automne, on parle de deux genres populaires, les deux genres les plus populaires des années 40, qui sont la comédie musicale et le western. Donc, tu sais, Dieu sait qu'il n'en manque pas de films de John Wayne ou de Roy Rogers à présenter, mais un enfant qui a vu les films de Toy Story, par exemple, ben, Woody le Cowboy est inspiré directement de Roy Rogers, tu sais, le cowboy à la guitare qui est devenu une vedette populaire, qui avait sa propre série télé, qui était en parfaite symbiose avec son cheval, ben, c'est Roy Rogers, là,
Oui, puis des
exactement.
comédies musicales, il y a un regain aussi d'intérêt. On pense à plein de films qui
Absolument.
sont sortis, ne serait-ce que chez les majeurs, dans le fond. Donc, c'est encore un genre avec lequel ils sont en contact aujourd'hui.
Oui, tout à fait, qui est très vivant. Puis, tu sais, ça revient tout à Fred Astaire et Gene Kelly, là. On peut pas passer à côté. Donc, c'est toujours cette idée-là de continuité, là.
Et j'imagine qu'il y a quand même un défi additionnel dans un contexte comme celui-là. J'imagine qu'il est peut-être plus dans la cour à Gary, cela étant dit, mais c'est dans l'idée où si on présente une scène X ou un moment X tiré d'un film dans la BD, il faut que vous preniez pour acquis que les gens vont probablement en fait, regarder le film après, à minima, donc reconnaître la scène. Donc, ce qui fait que le jeu de comparaison n'est pas juste dans le souvenir, mais il va potentiellement être dans l'immédiat. Donc, j'imagine que ça met la pression de quand on reproduit un personnage, quand on reproduit une scène, quand on choisit d'intégrer ces éléments-là. Mais il faut quand même être relativement précis parce que le travail de, entre guillemets, validation va être fait un peu par après, potentiellement.
Oui, effectivement. C'est sûr, quand on présente des scènes de tournage de films célèbres, mais on essaie de choisir, en tout cas, moi, j'essaie de choisir des images qui sont iconiques, que tout le monde reconnaît, qu'on a vu 1000 fois. Tu sais, par exemple, Harold Lloyd accroché à son horloge en haut d'un immeuble. Même les gens qui savent pas c'est quoi le titre de ce film-là, et c'est la plupart des gens d'ailleurs, ont vu cette image-là, ils la reconnaissent. Scorsese l'a repris dans son film Hugo, que beaucoup d'enfants ont vu. Alors, on prend des images qui sont iconiques, le robot dans Metropolis, le vampire dans Nosferatu, c'est des choses que moindrement qu'on s'intéresse au cinéma, dans les médias, on revoit ces images-là constamment. Tu sais, le poster de Chaplin qui est pris dans les engrenages de la machine des temps modernes, tout le monde connaît cette image-là. Fait qu'on essaie de vraiment reproduire des images qui sont immédiatement dans l'esprit des gens, là, associés à ces films-là. Puis ça, c'est un autre défi, c'est que c'est facile en tant que scénariste, de tomber dans une série de making-of, si je peux dire, tu sais, un plateau de tournage, un autre plateau de tournage, un autre plateau de tournage. Fait que souvent, j'essaie de volume en volume de me dire, OK, quel autre moment est-ce que je peux présenter? Tu sais, il y a des remises de prix, par exemple les Oscars, ou peut-être que je peux mettre une scène en dialogue entre deux personnages. Dans le volume 4 qui s'en vient, John Wayne va visiter des soldats au front pendant la guerre. Et là, ils ont une conversation. Fait que j'essaie souvent de raconter l'histoire du cinéma par d'autres moyens que le tournage de films uniquement, parce que je ne veux pas que ça devienne une série de making-of. Mais il y a des tournages de films qui sont inévitables, c'est que dont je dois absolument parler, parce que c'est là que ça se passe, l'histoire du cinéma. Mais des fois, c'est la réception aussi du film. Par exemple, lorsqu'il joue en salle, quel impact que ça a eu sur les spectateurs, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Fait que il y a tout ça, là.
Oui, ça revient un peu, enfin, on a parlé un peu au départ du travail d'ordonnancement où, dans le fond, on dit, OK, on veut parler de telle technique ou de tel film ou de telle figure emblématique qui a apporté beaucoup. Donc, après ça, j'imagine qu'il y a la question à savoir, ben, OK, qu'est-ce que je dois amener, qu'est-ce qu'il faut que je présente? Et c'est là qu'on creuse un peu comme vous dites, dans le fond, qu'il faut varier les manières, qu'il faut varier les formes, qu'il faut trouver le meilleur outil, dans le fond, pour illustrer ce qu'on veut faire. Et j'imagine que c'est là que le gros du travail scénaristique va se faire au final, parce que c'est là que les problèmes apparaissent, c'est là que les choix se font, puis c'est là que le professeur qui a ses 2 heures et demie, ben, doit choisir essentiellement l'anecdote de 5 minutes, parce que la BD, c'est un peu plus long.
Exact, tu sais, prenons juste Hitchcock qui a une quantité de films importants à son actif, mais comment ne pas parler de Psychose quand on parle d'Hitchcock? Donc, combien de pages je peux consacrer à Psychose sur les 12 que je consacre à Hitchcock? Et ensuite, comment est-ce que je présente la scène de la douche de Psychose? Est-ce que c'est le tournage de la scène qui est important? Est-ce que c'est le montage de la scène qui est important? Est-ce que c'est la décision de finalement mettre de la musique sur cette scène-là qui n'était pas l'intention d'Hitchcock au départ? Ou est-ce que c'est lorsque les spectateurs l'ont vu la première fois puis qu'ils ont perdu la boule? C'est quel moment mettre en scène pour mieux véhiculer ce que moi je veux, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important à retenir de ce film-là? Qu'est-ce qui est important à retenir de ce moment-là, historiquement, par rapport à son importance? Fait que c'est comme ça que je fais mes choix, là. C'est par quel moyen est-ce que je peux mieux véhiculer ce message-là, t'sais?
Ça veut dire que dans le fond, d'entrée de jeu, c'est la question qui est importante dans le travail scénaristique. C'est pourquoi je parle d'Hitchcock? Puis après ça, on part du pourquoi, qu'est-ce qui est incontournable, puis après ça, c'est à partir de. C'est les deux pièces maîtresses du casse-tête, dans le fond.
Oui.
C'est incontournable de parler psycho, mais quand je parle d'Hitchcock, je veux parler de tel élément, donc comment j'imbrique les deux.
Oui, c'est ça, exactement.
Et scénariser, dans le fond, évidemment, ça prend un certain temps, un certain défi, mais encore là, je reviens à ce qu'on dit au départ. J'imagine que rendu au quatrième, cinquième, sixième, l'agencement des pièces de cassette fait un peu plus naturellement parce que, veux pas, le métier que tu as appris et que tu as découvert au premier tome, ben là, ça fait quand même quelques années. On peut dire que tu deviens de plus en plus scénariste aguerri. Est-ce que, au-delà de la vulgarisation de l'histoire du cinéma, tu te dis, ben la BD, c'est un médium que j'aimerais exploiter au-delà de ce contenu pédagogique-là, éventuellement, un peu comme dans l'enseignement, tu le fais un peu pour le court-métrage ou autre, où il y a un appétit pour le scénario qui se développe?
Absolument, j'y prends beaucoup plaisir. En fait, ce qui a évolué, oui, ça devient plus facile pour moi de scénariser maintenant que j'ai un peu d'expérience. Mais c'est aussi que quand j'ai écrit le premier volume, je n'avais pas encore rencontré Gary. Et maintenant, quand je scénarise, je visualise les dessins de Gary. Je le connais bien, je connais ses forces, je connais aussi ce qui va être un défi pour lui. Alors, des fois, quand j'écris, je ris dans ma barbe parce que je vois déjà le dessin. Puis j'écris pour lui beaucoup plus. Tu sais, c'est un scénario maintenant. Des fois, il y a des notes. Il est écrit Gary 2. Puis là, je n'écris pas le scénario pour qu'il soit publié quelque part. Je l'écris directement en m'adressant à lui. Donc, ça, c'est une force parce que là, on a comme un. Après 4 volumes, on a une compréhension du travail de l'un et de l'autre qui économise beaucoup de temps, là. Fait que ça, c'est le fun. Oui, normalement, lorsque la série sera terminée, j'en serai à presque ma retraite. Je l'ai calculé là, au cégep. Donc, à ce moment-là, j'aurai beaucoup plus de temps. Puis oui, les idées commencent déjà à m'envahir, là. J'ai d'autres choses en tête que j'aimerais éventuellement essayer. Puis le fait de rencontrer les lecteurs dans les salons du livre, c'est tellement un plaisir, puis tu découvres tellement des choses intéressantes. Ça, c'est un aspect que j'ai découvert à ma surprise, que j'aimais beaucoup et que j'aimerais poursuivre éventuellement.
Et pour l'instant, on est à peu près sur un rythme d'un album par année, donc une période à peu près une décennie par année, j'aurais envie presque de dire aussi dans ce qui est raconté. Donc, on garde le rythme pour. C'est, le plan de match, c'est de garder un peu ce rythme-là pour les années à venir.
Oui, à peu près 1 an et demi, je dirais,
Ouais.
par volume. Non? On varie d'automne à printemps, printemps à automne. Mais oui, on va. L'idée, c'est de garder ce rythme-là, effectivement. Là. Je termine là, l'écriture du volume 6 à l'heure actuelle. Le 5 est prêt. On va se lancer dessus dans quelques semaines lorsque le 4 sera définitivement terminé. Là. Fait qu'on garde le cap.
Et d'ici là, ben, au moment où on se parle, il y a 3 albums disponibles, donc les 3 premiers tomes. Le 4e s'en vient à l'automne 2024 également. Donc, on peut plonger dans l'histoire du cinéma et profiter de la porte que Philippe Lemieux et Gary nous ouvrent. Je rappelle donc, la série s'appelle L'histoire du cinéma en BD et c'est du côté des éditions Michel Quintin. Philippe Lemieux, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Toujours à l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier toujours avec vous. Et on va porter un regard vers un récit, et j'ai l'impression qu'on est un peu en mode rattrapage, tout le monde, rattrapage automnal, c'est le début de l'année, on a le droit. Alors, avec un titre qui est arrivé en octobre chez Mécanique Générale, c'est La Fiancée, deuxième titre de l'autrice après La Demoiselle en blanc qu'on avait découvert il y a déjà quelques années. Alors, l'autrice est avec nous, Éléonore Goldberg, bonjour.
Bonjour.
Alors, La Fiancée, essentiellement, c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre. C'est la pièce de théâtre la plus jouée du théâtre yiddish, d'ailleurs, un peu leur Roméo et Juliette. Donc, la pièce s'appelle le Dibouk. Et vous contextualisez un peu, d'ailleurs, dans les premières pages, l'élément déclencheur qui vous amène à vous intéresser à cette pièce-là. Donc, essentiellement, votre père qui vous l'avait proposé, qui vous avait amené vers ce texte-là.
Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, je fais une espèce de mise en abîme, je présente un personnage à une époque plus ou moins contemporaine, ça reste un petit peu flou. Et c'est ça, et c'est le père de cette jeune femme qui lui propose de lire le livre et d'en faire quelque chose.
Et donc, c'est un peu à l'image de ce qui s'est passé pour vrai, ou c'est un peu votre père qui vous avait mis la BD dans la main?
Oui, en fait,
La pièce dans la main?
ouais, je travaillais sur, je finissais La Demoiselle en blanc. Avec Dominique Parenteau-Leboeuf et mon père a sorti le D-book de sa bibliothèque et il me l'a un petit peu balancé sur la table en me disant c'est ça que tu dois faire. Voilà.
Et évidemment, quand on creuse, et encore là, c'est des éléments qui sont mis de l'avant dans la BD, dans la mesure où, bon, le Dibouk, essentiellement, c'est une histoire d'amour impossible, on disait un peu Roméo et Juliette, avec une fille qui, à un moment donné, devient possédée un peu par un esprit. Le Dibouk, et dans le fond, c'est vraiment une pièce très masculine, au final, avec beaucoup d'hommes qui parlent, le personnage féminin qui, dans la pièce, est certes peut-être un peu au centre de l'histoire, mais d'abord plus un accessoire qu'un personnage, à la limite. Et j'ai l'impression, en fait, de ce que j'en comprends, une des premières choses que vous exprimez et qu'on comprend, c'est qu'il y a une volonté de recentrer cette pièce-là, de dire, ben, le personnage central, c'est la jeune femme, ce n'est pas un accessoire et c'est elle qui devient un peu le moteur de ce récit-là.
Bah, c'est ce que j'ai voulu faire, oui, parce que, en fait, au début, quand j'ai pensé peut-être l'adapter, ma première pensée était d'être fidèle, en fait, à la pièce. J'osais pas, j'avais peur de, je sais pas, de me l'approprier. J'avais peur aussi de peut-être me montrer irrespectueuse par rapport à la communauté juive, etc. Peur peut-être aussi de décevoir mon père si je faisais cette adaptation. Et puis, bon, je lisais la pièce. Et puis, bon, bah voilà, comme vous avez dit, c'est très masculin. C'est beaucoup d'hommes qui parlent. En fait, beaucoup d'hommes religieux qui parlent. Et même si je trouvais certains passages très intéressants, ne serait-ce que culturellement parlant, enfin, j'ai appris plein de choses. À un moment donné, la pièce est quand même longue et ça parle beaucoup. Et à un moment donné, quand j'ai vu que le personnage de Léa ne disait rien, et que oui, comme vous avez dit, c'était un peu un accessoire, en fait, elle était encore une espèce de porte-voix pour une voix masculine qui était celle de Ronen, le jeune amoureux qui meurt dans la synagogue et qui devient un dibouk, en fait. Ça m'a un petit peu agacée à la lecture parce que bon, bah, j'ai lu cette pièce en 2015. Donc bon, voilà, on n'était pas en 1920, quoi. en plus au Québec. Donc, ça m'a. C'est comme ça qu'en fait l'idée m'est venue petit à petit de recentrer de l'histoire autour de Léa. Et puis, je me posais plein de questions. Je me disais, mais si ça se trouve, elle fait semblant pour échapper au mariage forcé. Donc, toutes ces idées m'ont donné envie de l'étoffer un petit peu et puis de lui inventer une enfance, une jeunesse pour peut-être expliquer les raisons pour lesquelles elle se retrouve hantée par le D-Book parce que c'était pas la seule jeune femme. Du village à être marié un petit peu de force à quelqu'un. Enfin, c'était dans les mœurs, quoi. Là, en Ukraine, comme ici, à mon avis, enfin au Québec, à la même époque. Donc,
Oui, ben
voilà.
ça, c'est pas un matériel culturel et le produit de
Ça.
son temps. Donc, on a toujours l'option quand on choisit de l'adapter, dans le fond, parce qu'au bout du compte, ça reste aussi une mise en scène ou une mise en planche. On est dans une logique de mise en scène, ben, de dire, ben, est-ce que je l'amène un peu plus dans l'esprit de son temps? Et si la pièce avait été écrite aujourd'hui, est-ce que le personnage féminin aurait été autant entouré d'une constellation de voix d'hommes ou est-ce qu'elle aurait eu sa voix propre? Et dans ce cas-là, ben, on ouvre la porte à lui donner, à lui bâtir, à construire cette voix propre-là.
Ouais. Et puis bon, bah, c'est aussi une question de culture et de communauté. Tout dépend de la communauté dans laquelle on vit, etc. Parce que bon, on peut dire qu'aujourd'hui, le mariage arrangé, ça n'existe pas. Mais non, c'est pas vrai. Ça existe encore. Donc bon, ça peut quand même parler peut-être à certaines personnes qui appartiennent à certaines communautés qui vivent peut-être mal le mariage arrangé. Je ne sais pas.
Oui,
Donc bon.
comparativement à l'adaptation par une jeune femme qui vit une réalité à Montréal, au Québec.
Voilà.
Et donc, on veut pas, on est dans nos contextes à nous aussi,
Oui.
nécessairement.
Oui.
Et est-ce que dans le fond, l'intérêt de la pièce et de l'intérêt de l'adaptation, est-ce que il est venu de la pièce elle-même ou justement de cette volonté-là de l'adapter, de se l'approprier au final, puis pas nécessairement de la réinventer, mais de la faire évoluer à la page un peu de ce qu'on vient de dire.
Je pense que c'est venu de plusieurs choses. Il y avait déjà le fait que mon père m'en avait parlé, puis il y avait le côté Fifi qui veut faire plaisir à son papa, qui parlait en moi. Il y avait aussi le désir de faire un nouveau projet de bande dessinée, et puis j'avais pas nécessairement l'idée de raconter quelque chose de complètement inventé, enfin de partir d'une histoire complètement inventée. J'avais beaucoup aimé l'expérience de l'adaptation avec Dominique Parenteau-Leboeuf, et puis j'aimais bien le fait de travailler à partir de la forme de la pièce de théâtre. Il y avait ça. Et puis bah, quand j'ai lu la pièce, même s'il y a eu des choses qui m'ont peut-être un petit peu agacée, et même si le texte m'a semblé un peu lourd, il y avait quand même des images fortes. Qui m'ont beaucoup parlé et j'imaginais des scènes que je pouvais dessiner, mais après le tout c'était de dessiner quand même tout le projet, hein, pas juste des scènes. Et puis bon bah après il y a aussi des éléments de ma vie personnelle qui ont fait que ça m'a inspirée par rapport à la réécriture. Donc c'est vraiment ça c'est disons que au début j'ai commencé à vouloir l'adapter fidèlement. Ça a pas accroché, j'ai eu la difficulté à être vraiment attachée au projet. Et puis, ma pensée a évolué, et puis à un moment donné, c'est devenu une obsession. Et puis, après, c'était de trouver le bon angle, un angle auquel je restais accrochée. Donc voilà, ça a été long quand même, hein. Ça
Oui,
a
ben en fait,
pris
ça s'est
7 ans.
développé sur 7 ans, exact.
Oui, c'est ça. C'était pas 7 ans à temps plein quand même, parce que il y avait d'autres choses. J'ai fini un film d'animation, j'en ai fait un autre. J'ai eu des enfants, il y a eu la pandémie, j'ai enseigné à temps plein. Enfin, j'ai fait pas mal de choses, mais je pense aussi que s'il y avait eu moins de choses, peut-être que j'aurais fait le projet plus vite. Mais bon, voilà.
C'est le défaut de la BD, des fois. Quand on le fait à travers tout le reste, ben, pas, ça devient des expériences en longueur. Et j'imagine que dans ces cas-là, d'autant plus, c'est-à-dire qu'on vit avec le projet longtemps, donc faut
Ouais.
s'attacher. Et j'imagine que ça teinte aussi l'attachement qu'on va avoir au projet
Oui, parce que quand j'ai même commencé à vous, quand j'ai quand même, quand au début, à la première lecture, quand je me sentais agacée par le peu de présence de Léa dans l'histoire, même si elle était pourtant très importante, peut-être que ma, comment dire, on va dire, ma pensée féministe n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Donc c'est sûr qu'en évoluant, en vieillissant, en ayant toutes sortes d'expériences à travers les années, ça s'est un petit peu plus renforcé. Et donc, ça a influencé aussi mon adaptation finale. Ouais.
Et sur le plan d'adaptation, évidemment, il y a le contexte de la pièce. La pièce elle-même est dans un contexte social, dans un contexte historique. Et bien que si on la regarde un peu avec une sensibilité actuelle, elle reste campée au 19e siècle, elle reste campée en Ukraine, elle reste campée donc dans l'histoire. Donc j'imagine qu'au côté de la pièce, il faut aussi faire une recherche historique, voir un peu ben, à quoi ressemblaient les gens, à quoi ressemblaient les lieux. Donc ça a dû aussi prendre, j'imagine, un certain temps, et représenter un certain défi aussi.
Oui, mais en fait, c'était ça aussi qui était très intéressant parce que, enfin, ça, c'est quelque chose que j'aime faire dans les projets, c'est faire de la recherche, en fait. Parce que c'est comme si chaque projet m'amenait à découvrir une histoire, une société, des artefacts, des archives. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc, je voulais me l'approprier, mais je voulais aussi respecter le contexte de la pièce. Je voulais pas faire se dérouler l'histoire aujourd'hui, je sais pas, moi, à Montréal, mais dans la communauté hassidique, par exemple, ça m'intéressait pas. Je voulais vraiment rester dans le shtetl. Je voulais dessiner des maisons en bois, des vieux objets, etc. Donc, c'est ça qui m'a amené à faire pas mal de recherches. J'ai trouvé des vieilles photographies de Shtetl. Mais il n'y en a pas tant que ça. Et puis elles sont quand même assez vieilles, assez floues. J'ai fait de la recherche à propos des synagogues en bois, les maisons en Ukraine de cette époque. Mais bon, on a surtout des reproductions de maisons en Ukraine ou en Russie, mais des maisons qui sont plutôt des maisons. Des communautés orthodoxes ou chrétiennes, et pas nécessairement des vieilles baraques dans les shtetls qui étaient plutôt des bourgs habités par des gens assez pauvres. Donc on a moins d'informations, donc c'était assez difficile de meubler ces maisons-là, en fait. Mais c'était quand même très intéressant.
Oui, puis dans
Et
le
puis,
contexte en plus de
ouais.
votre mise en scène où vous les faites vivre, ces endroits-là, je pense à la cuisine, par exemple, d'une
Ouais.
maison du Shtetl, ben, on a plusieurs illustrations, on la voit, on a pratiquement une panoramique, on a la même chose un peu plus loin avec une synagogue, avec le village qu'on voit d'en haut,
Ouais,
avec le bourg qu'on voit d'en haut.
ouais.
Donc, je me dis un peu, tant qu'à avoir fait la recherche, on va la mettre en scène et on va l'utiliser pour rythmer le récit, pour rythmer les lieux, pour nous permettre, nous, lecteurs, de découvrir un peu le résultat de ces
Ouais.
travaux-là mis en scène.
Ouais. Et en fait, j'essayais vraiment d'être logique dans la mise en scène justement des lieux. Je me disais, bon, bah, c'est quand même. Bon, Léa, elle est la fille d'un homme qui a quand même de l'argent, donc c'est moins désuet chez eux. Donc, je regardais un petit peu comment c'était à l'intérieur de ces anciennes maisons russes ou ukrainiennes. Puis bon, bah, forcément, il y avait un poêle, forcément, il y avait une cuisine, alors les choses de base, etc. C'est vrai que dans mes premières versions, il y avait très peu de décors parce que j'avais pas beaucoup d'informations. Donc c'est vraiment en faisant de la recherche à travers les années, en collectant de plus en plus de photos, d'archives, de reproductions, que j'ai réussi à meubler, on va dire, le décor. Ouais. Et
Et
puis il y
à
a aussi
travers ces
les... Pardon.
recherches-là, mais à travers ces recherches-là, j'imagine on tombe aussi sur des éléments artistiques, sur des représentations. Et
Ouais.
j'avais lu quelque part que même ces éléments-là aussi étaient venus un peu teinter l'a priori de la direction artistique, en fait, que vous donniez à votre trait, à votre dessin à l'intérieur du projet.
Oui, c'est ça. Il y a aussi eu des découvertes d'artistes donc de l'époque qui ont représenté la vie dans les shtetls, etc. Donc des dessins qui ont plutôt qui sont des gravures, des linogravures, etc. Donc quelques peintures. Ça aussi, ça m'a beaucoup inspirée. Voilà, donc, et puis bon, il y a aussi des films, des vieux fi des films où ces villages étaient reproduits. Donc tout ça m'a en fait pas mal aidée et inspirée. Oui.
Et vous disiez, ben en fait, au départ, c'est moins décoré, c'était moins habité en termes de
Oui.
lieu, donc ça l'est
Ouais.
devenu en cours de route. Donc, dans le fond, on travaille sur l'adaptation, on travaille sur la documentation un peu en parallèle, puis il y a des allers-retours qui se font un peu entre les deux.
Oui, c'était vraiment d'abord le texte, l'histoire. Quelle est l'histoire? Comment est-ce que je retravaille la narration? Qui est-ce qui parle? Qui c'est qui prend plus de place d'abord? Ensuite, c'était de leur donner des traits à ces personnages-là. Comment est-ce que je vais représenter Léa versus Ronen versus Sander? Et puis, quel est le médium que je vais utiliser? Au début, j'étais sur le pinceau. Le pinceau à l'encre et au lavis. Et puis, je suis restée longtemps dans le pinceau. Et puis, finalement, à partir de 2020, j'ai décidé d'aller vers la plume. Donc, ça a quand même changé. J'ai dû tout recommencer. Et puis, parce que je trouvais que ça s'y prêtait mieux au final. Et puis, bon, j'avais vieilli, j'avais changé. Ça faisait quand même quelques années déjà que je travaillais là-dessus. Donc, je commençais à en avoir un petit peu marre du pinceau. J'avais envie d'expérimenter plus, enfin, de dessiner plus avec la plume. Et puis bon, c'est ça. Donc, c'était d'abord la narration, les personnages, les vêtements. Et puis, en dernier lieu, ça a été vraiment les décors. Ouais. Et puis aussi, bah, à la toute fin, c'était la partie plus contemporaine qui est venue. Vraiment, ouais.
Et le rythme du récit est quand même assez. Il y a une certaine lenteur, en fait,
Ouais.
je disais tantôt, qui est délibérée, qui nous donne le temps aussi d'observer, de recevoir, où on sent qu'il y a une urgence, mais pas tant non plus, tu sais, d'une certaine façon, qu'il y a un jeu un peu lourd aussi là-dessus. J'ai l'impression que ça, cette abondance-là a permis de d'ancrer à tout le moins pour le départ, là. Je ne veux pas trop me rendre loin non plus dans l'histoire pour ceux qui n'ont pas lu la pièce. Donc, est-ce que c'est des éléments qui étaient là aussi dès le départ où on s'est dit, OK, on veut jouer un peu parce que le texte vous appelait à ce rythme-là, ou est-ce que ça rentre un peu dans des choix de mise en scène au bout du compte que vous avez fait?
Bah, au début, vraiment, je suivais les parties de la pièce, chronologiquement. Donc, on était tout de suite à l'époque où Léa et Ronan se rencontrent. Et puis, bon, après, il y a l'arrivée de l'annonce d'une date de mariage. Et après, finalement, ce qui arrive à Ronan dans la synagogue. Et puis, finalement, la séance d'exorcisme. Donc, ça finit comme ça. C'est un petit peu l'ordre de la pièce. Alors, au début, je suivais ça. Et puis, c'est vraiment... Enfin, c'est tellement complexe comme histoire parce que c'est pas juste une histoire d'amour. Il y a aussi une histoire de promesses non tenues. Si j'éludais ça, on perdait quand même bah, un petit peu l'essence de la pièce, parce que c'est pas juste un Roméo et Juliette, c'est aussi une histoire d'amitié entre deux pères, une histoire de trahison, d'amitié. Il y a ça, puis bon, bah, toute la séance de l'exorcisme, c'est quand même quelque chose d'assez important dans l'histoire. C'est très théâtral, voire chorégraphique, donc il fallait vraiment que ça ait sa place. Donc c'est sûr que tous ces éléments-là font que la pièce, l'adaptation aurait été déjà quand même un petit peu longue, parce qu'il faut quand même placer tous les éléments pour qu'on comprenne un petit peu l'histoire. Mais puis en plus, je voulais au final donner cette jeunesse et cette enfance et cette jeunesse à Léa. Donc tout s'est vraiment rallongé, rallongé, rallongé. Et puis je me souviens que même 2 mois avant d'envoyer le livre à l'impression, je parlais avec Éric Bouchard, qui est le directeur éditorial, et puis il me disait, ça prend plus de pages, ça prend plus de pages, ça serait bien qu'on reste plus longtemps dans ce moment-là. Et puis il y avait aussi des moments dans la pièce originale qui sont, comment dire, qui sont traités comme des ellipses. Quand par exemple Léa va au cimetière pour inviter sa mère à son mariage, mais aussi, comment dire, se recueillir sur la tombe de son amoureux. Bon, bah, c'est des ellipses dans la pièce. Et moi, je voulais vraiment la présenter parce que pour moi, c'était des moments cruciaux. Et puis, c'était encore une façon de présenter Léa. Donc, et puis, c'était des moments intéressants, je trouvais, graphiquement, à illustrer. Donc, je me disais, là, il y a de la place.
Oui, puis à ça, on ajoute aussi tout le contexte mythologique également, parce qu'il y a de la possession, donc on est dans les contes, on est un
Oui.
peu dans le fantastique qu'il faut placer. Et encore là, dans la même logique, c'est la nourrice, dans le fond, qui les porte, ces éléments-là,
Oui,
ces histoires-là, plutôt que des hommes qui en parlent. Donc,
c'est
on
ça.
amplifie aussi progressivement l'univers féminin qui est
Oui,
absent, qui rajoute aussi des pages, j'imagine,
c'est
et
ça.
d'autres.
Oui, c'est ça. Donc, il y a toujours une mise en contexte, une mise en contexte de ci, une mise en contexte de ça. On représente les choses d'une autre façon. C'est par la nourrice que l'information passe. Parce que, par exemple, on dit, du yiddish, on dit que c'est la langue de la mer. On appelle ça la langue de la mer. Donc, je me disais, bah, c'est logique dans ces cas-là que toute la connaissance qu'acquiert Léa de sa culture vienne de sa mère plutôt que son père, parce que enfin, pas de sa mère, de la nourrice plutôt que son père, parce que son père finalement est trop occupé à faire des affaires pour vraiment éduquer sa fille. Et donc, c'est la nourrice qui l'éduque et c'est la nourrice qui lui raconte toutes ces légendes. Donc, alors que dans la pièce, ça passe par d'autres personnages et donc des personnages principalement masculins.
Et tout ça accompagné, en fait, évidemment, il y a des éléments qui moi, dans les codes, évidemment, renvoient un peu à l'acte au théâtre, mais aussi au côté un peu cinématographique avec des éléments qui sont un
Ah
peu
oui.
mis comme dans des films muets, des entrepages où on a quelques pensées un peu encadrées, donc qui viennent aussi rythmer ou ancrer des épisodes. Et à un moment donné aussi, c'est cette mise en page-là qui est plus sur fond gris, on pourrait dire, vous l'intégrez dans la bande dessinée, entre autres pour la possession, la prise de possession de l'esprit de Léa par le D-Book, justement, où là, oups, on intègre un peu une séquence, on profite un peu de l'aspect fantomatique, donc qui viennent ajouter une variété aussi, j'imagine, au type de plan, au type d'outils que vous aviez
Ouais.
pour mettre en scène toutes les dimensions de ce récit-là.
Oui, bah d'ailleurs, tout ce qui m'avait inspiré, il y avait aussi le fameux film de Michal Wazinski, Le D-Book, qui est en fait un film de 1936, je crois, qui date de 1936 ou de 1937. Et puis, donc, c'est un film en noir et blanc, mais en yiddish. Et puis, il y a des scènes qui sont vraiment magnifiques. Moi, j'ai adoré la scène de Pronen qui va au bain et puis qui prie. Il y a même un aspect, moi, je trouvais érotique intéressant dans cette scène, même si je ne pense pas que c'était vraiment, je ne crois pas que c'était l'intention du cinéaste, mais moi, je l'ai perçu comme ça. Et donc, il y avait des scènes dans ce film qui m'ont aussi inspirée. Et j'aimais bien l'idée que ma bande dessinée puisse faire un rappel avec le cinéma muet ou le cinéma en noir et blanc des années 20. J'ai joué un peu avec ces codes-là aussi. Enfin, j'ai essayé.
Oui, puis
Il y avait
la séquence
vraiment,
des
ouais.
bains, on voit aussi même juste dans la façon dont vous la reprenez maintenant que vous l'évoquez, mais tout dans les volutes d'humidité, d'air chaud, en fait, qui est exploité. Donc, encore là, de profiter du fait, OK, on travaille à l'angle de Chine, on profite, on a la ligne qui est omniprésente, donc qui nous permet de voir de quelle manière on peut l'exploiter, quels outils on peut se donner comme dessinatrice pour mettre en scène, pour faire ressentir, dans le fond, cette ambiance-là.
Oui, bah c'est ça. Je pense que j'ai essayé un petit peu de dessiner comment moi je m'étais sentie en lisant la pièce ou comment je m'étais sentie en regardant cette séquence du film de 1937. Parce que je pense que c'était quand même un projet un petit peu long et difficile et j'avais vraiment besoin d'y mettre vraiment du moi, du mien là-dedans, de me l'approprier, de pas juste faire une adaptation bête, enfin bête dans le sens à la lettre. En plus, j'en voyais pas nécessairement l'intérêt. Je me disais, tant qu'à faire, lisons juste la pièce, allons voir la pièce au théâtre et voilà quoi. Je vois pas ce que ma BD pouvait apporter. Sinon, à cette histoire, il fallait que ce soit plus personnel. Enfin, c'était mon désir. Donc,
Et 7 ans plus tard,
ouais.
on se rend compte qu'on a fait 396 planches,
Oui,
que c'est ça.
je suis quand même contente que ce soit terminé.
Et à travers ça, en fait, on le mentionnait, c'est une pièce qui est en yiddish, qui nous amène dans cet univers-là, dans cette culture-là aussi. Et le yiddish est présent à l'intérieur de la pièce, même parfois pour certains dialogues, ou sinon pour les caractères, l'alphabet, il reste. Dans le fond, ça reste présent, et je pense qu'au-delà justement des costumes, au-delà des villages, la linguistique nous permet aussi de s'en sentir un peu immergé dans cet univers-là. J'ai presque l'impression, en fait, je disais ça, je me dis, ça a dû s'imposer pratiquement de dire, OK, on va amener aussi la calligraphie un peu dans la mise en scène.
Oui, c'est vrai, vraiment. Je trouvais que le yiddish faisait partie vraiment comment dire, de l'identité de cette pièce. D'ailleurs, elle est jouée en yiddish. Si, on peut la voir, je pense qu'elle a été jouée au Centre Cigale plusieurs fois et elle va sûrement être encore jouée. Elle est jouée en yiddish, elle est jouée en anglais. Mais le film Wazinski, j'arrive pas à prononcer son nom, de 1937, est en yiddish. Je trouvais que c'était, même si la pièce n'a pas été écrite originellement en yiddish, elle a d'abord été écrite en russe, puis ensuite traduite en yiddish. C'est une pièce de théâtre qui est considérée comme une pièce de théâtre yiddish, parce qu'elle a été surtout jouée par des acteurs, des comédiens en yiddish. Donc c'était important. Et puis oui, c'est vrai qu'il y a ce plaisir de l'écriture, des lettres. Hébraïques, qui sont comme un petit peu des dessins pour moi. Puis ça faisait partie un petit peu peut-être de l'aspect documentaire que je voulais apporter au livre, parce que bon, il y a toute la recherche d'archives avec les décors, le lieu, même les arbres. J'avais fait des recherches sur les arbres des forêts en Ukraine et en Russie. Et j'avais trouvé ces espèces d'arbres avec des troncs un petit peu arrondis, qui ont l'air d'être un petit peu déposés sur le sol. Je trouvais ça super beau. Donc, c'était, ça faisait vraiment partie de l'esthétique, un peu théâtrale, mais aussi de l'aspect documentaire. Je voulais que ce soit à la fois un peu, je voulais me l'approprier, et qu'il y ait un aspect un petit peu imaginaire et en même temps un aspect un petit peu, oui, c'est ça, documentaire, entre guillemets, réaliste, bref.
Oui, en fait, je l'associais presque un peu comme lecteur à un sentiment de devoir de mémoire, à la limite où on dit on s'approprie un élément important du patrimoine d'une culture X et on rend
Ouais.
hommage un peu, on témoigne un peu de cette culture-là. Puis même à la fin, je pense que vous contextualisez même les villages de la région, dans le fond, Miropol, Brenetier,
Ouais.
Krasnik, qui sont mentionnés et vous dites, ben, les gens qui étaient là ont été exterminés finalement.
Oui, et puis bon, bah, la langue yiddish, elle est peu parlée maintenant. Enfin, elle était parlée par mes grands-parents, mais ils ne l'ont pas transmise à mon père. Et donc, mon père ne la parle pas. Moi, j'ai été intéressée par la langue. J'avais été faire un stage en 2013 au Brooklyn College pour un stage intensif de yiddish en espérant l'apprendre, et puis finalement j'étais nulle. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Donc c'était vraiment, oui, un intérêt culturel. Mais je ne sais pas si le devoir de mémoire, ce serait le bon terme pour le projet en tant que tel. Mais c'est sûr qu'il y a bah, le désir de transmettre une part d'héritage culturel. En tout cas, ça c'est certain.
Oui, puis
Oui.
peut-être de l'explorer aussi, parce que, au bout du compte, comme vous dites, ben, votre père n'avait pas eu accès à cette langue-là de façon directe, donc pour la parler. Donc, c'est aussi un peu plongé dans des racines familiales peut-être un peu plus lointaines aussi.
Oui, et puis bah, c'est une curiosité en fait, hein, parce que bon, je n'étais pas obligée d'être intéressée par le yiddish, c'était plutôt parce que je suis quelqu'un, je suis très curieuse. je sais pas, et puis bon, bah, quand on vient, quand on a des racines un petit peu éparses, on se cherche beaucoup, on veut combler des trous, on se demande si la voie de la langue qu'on ne connaît pas, c'est la bonne pour se connaître un petit peu mieux, etc. Donc ça fait partie de questionnements identitaires. Hein. Mais c'est moi, ce que je trouve intéressant dans ces projets-là, c'est tout ce qu'on découvre, tout ce qu'on apprend. Ça ne veut pas dire que les questions sont réglées, mais c'est juste très enrichissant, en fait. Et
Oui, puis.
puis, je ne sais pas, je voulais vous dire quelque chose en parlant, mais j'ai complètement oublié.
Mais dans le fond, c'est un peu ce que j'entends, parce que j'ai l'impression que, ben, puis veut pas, je pense, l'aspect longitudinal du projet sur 7 ans, même si les 3 dernières années, dans le fond, pour le style visuel, se sont trouvés. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont ressortis un peu de cette période-là, mais il y a beaucoup d'influences croisées, finalement, où l'environnement émotif de l'autrice, la recherche historique, la pièce elle-même, les aspects culturels, les aspects linguistiques. Donc, ça devient un beau métissage. Et j'imagine que ça qui a été un beau moteur de curiosité pour vous aussi à travers ça. Et au final, qui nous transmet un peu aussi, nous, lecteurs, ce regard-là, dans le fond, puis ça devient un peu le défi de transmettre un peu cette ambiance d'exploration-là, d'une certaine façon, au-delà de la pièce, au-delà du récit lui-même qui est en soi d'intérêt.
Ouais. Et puis bah, c'était quand même drôle pour moi de découvrir la pièce en sachant que c'était donc un grand classique du théâtre yiddish. Et puis bah, de réaliser que je ne la connaissais pas du tout, quoi. Donc c'est un grand classique, mais j'en avais jamais entendu parler. Et puis d'ailleurs, j'ai rencontré d'autres personnes qui sont d'origine juive comme moi. Et puis bon, ils n'en ont jamais entendu parler non plus. Donc c'est comme un classique qui se perd et qu'il faut peut-être. Bah, c'est peut-être aussi parce que justement, la pièce est en yiddish et que de moins en moins de gens la parlent. Alors c'est peut-être pour ça aussi que le médium de la BD est une bonne voie pour, bah, je sais pas, représenter la pièce, transmettre ces légendes bah, aux nouvelles générations, aux générations actuelles. Enfin, c'est un média populaire quand même, donc
Oui.
c'est accessible. Donc,
Puis de l'ancrer un peu dans le temps, parce que veux pas, puis d'une adaptation théâtrale à l'autre, quand on l'amène vers un médium cinématographique ou livresque, ben veux pas, on fixe aussi une mise en scène, alors que le théâtre appelle beaucoup à l'éphémérité. Dans le fond, le texte, le scénario de la pièce va rester parce qu'à un moment donné, il va être édité, mais l'interprétation qu'on va faire un metteur en scène ou une metteur en scène va être éphémère, va durer quelques semaines, quelques années selon le succès, alors que le livre, ben, une fois qu'il est édité, techniquement, c'est un objet qui existe de façon prolongée dans le temps, donc qui devient peut-être
oui.
aussi une interprétation qui va être ironiquement plus durable que l'interprétation théâtrale que va avoir la pièce.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Possible. Ouais. Sauf si on brûle mon livre.
Oui, effectivement. Et d'ici là, bien évidemment, on peut découvrir l'adaptation que vous en avez livrée, votre mise en planche, donc de ce D-Boods, donc qui s'appelle La Fiancée. Donc, je rappelle, c'est du côté de chez Mécanique Générale. Éléonore Goldberg, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Raymond.
Eh bien voilà qui conclut cette édition de La Vie en BD. C'était Raymond Poirier avec vous. Toujours un plaisir et on se dit à la semaine prochaine.